Studio, deuxième partie, chapitre 1. Deux jours après l'étrange aventure par laquelle se termine la première partie de notre récit, le prince Muishkin s'empressa de se rendre à Moscou pour entrer en possession de son héritage inattendu. On a dit alors que d'autres causes encore avaient pu provoquer ce brusque départ, mais nous avons assez peu de renseignements sur ce point, comme en général sur l'existence du prince à Moscou et pendant les 6 mois qu'il resta absent de Pétersbourg. Ceux-là même qui, pour certaines raisons, pouvaient n'être pas indifférents à son sort, demeurèrent durant tout ce temps presque sans nouvelles de lui. Quelques bruits arrivèrent bien, de loin en loin, aux oreilles de plusieurs d'entre eux, mais c'étaient des rumeurs étranges pour la plupart, et presque toujours en contradiction les unes avec les autres. Nulle part, naturellement, on ne s'intéressait plus au prince que chez les Epanchin, à qui, en partant, il n'avait même pas dit adieu. À la vérité, le général l'avait vu alors, et même 2 ou 3 fois. Ils s'étaient entretenus sérieusement ensemble. Mais si Ivan Fédorovitch, personnellement, avait vu le prince, il n'avait pas fait part de cette circonstance à sa famille. Au début, c'est-à-dire pendant tout le premier mois qui suivit le départ de Muishkin, il était reçu chez les Epanchin de ne pas parler de lui. Elisabeth Prokofievna fut la seule qui, tout au commencement, dérogea à cette règle en déclarant qu'elle s'était cruellement trompée sur le prince. Puis, 2 ou 3 jours après, elle ajouta, mais cette fois en termes généraux et sans nommer personne, que le trait le plus caractéristique de sa vie avait été de se tromper sans cesse sur les gens. Et enfin, 10 jours plus tard, à la suite d'une scène qu'elle venait de faire à ses filles, elle prononça ces mots. « Assez d'erreurs, il n'y en aura plus désormais. » Force nous est de signaler ici l'humeur chagrine qui, pendant assez longtemps, se manifesta chez tous les membres de la famille Epanchin. Les rapports tendus, difficiles, tournaient vite allègres. Il semblait qu'on se cachât mutuellement quelque chose. Tous les visages étaient renfrognés. Le général s'absorbait jour et nuit dans sa besogne. Jamais on ne l'avait vu plus occupé d'affaires, notamment du service. À peine faisait-il de temps à autre une fugitive apparition au milieu des siens. Quant aux demoiselles, sans doute elles se gardaient bien de rien dire devant leurs parents, et peut-être ne parlaient-elles guère davantage lorsqu'elles se trouvaient seules ensemble. C'étaient des jeunes filles fières, hautaines, parfois même réservées vis-à-vis l'une de l'autre. D'ailleurs, elles se comprenaient non pas seulement au premier mot, mais au premier regard, ce qui, dans bien des cas, rendait la conversation superflue. Un observateur étranger, s'il s'en était rencontré un là, n'aurait pu conjecturer qu'une chose. À en juger par toutes les données précédentes, le prince avait laissé une impression particulière dans l'esprit des Epanchin, bien qu'il ne leur eût fait qu'une seule visite. Peut-être cela s'expliquait-il simplement par la curiosité que certaines aventures bizarres du prince étaient de nature à éveiller. Quoi qu'il en soit, l'impression subsistait. Peu à peu, les bruits répandus dans la ville devinrent de plus en plus confus et incohérents. On parlait, à la vérité, d'un jeune prince fort sot. Personne ne pouvait dire au juste comment il s'appelait. Qui, ayant hérité tout à coup d'une fortune énorme, avait épousé une célébrité des bals publics parisiens en déplacement à Pétersbourg. Mais d'autres prétendaient que l'énorme héritage avait été fait par un général et que l'époux de la cascadeuse française était un marchand russe immensément riche. Ils ajoutaient que le jour de son mariage, cet homme, étant ivre, avait, par pure gloriole, brûlé à la flamme d'une bougie pour 700 000 roubles de titres du dernier emprunt. Du reste, on cessa bientôt de s'occuper de toutes ces histoires, vu l'impossibilité de les tirer au clair. Par exemple, la bande de Rogojine, où se trouvaient des gens qui auraient pu fournir quelques renseignements, partit tout entière pour Moscou à la suite de son chef, après avoir fait une noce de 8 jours au Wall Hall des Katerinov. Nastasia Philipovna avait assisté à cette orgie monstre, et un petit nombre d'intéressés apprirent indirectement qu'elle avait disparu le lendemain. On la croyait réfugiée à Moscou, supposition que semblait confirmer le départ de Rogojine pour cette ville. Divers racontars circulèrent également sur le compte de Gabriel Ardalionovitch Ivolgin, qui était aussi assez connu dans un certain monde. Mais une circonstance ne tarda pas à faire taire les mauvaises langues. Le jeune homme tomba gravement malade, et on ne le vit plus, ni dans la société, ni même à son bureau. Sa maladie dura 1 mois. Quand il eut recouvré la santé, il se démit de son emploi, et la compagnie dont il était le secrétaire dut pourvoir à son remplacement. Pas une seule fois non plus, il n'alla chez le général Epanchine, si bien que ce dernier le remplaça aussi. Les ennemis de Gabriel Ardalionovitch auraient pu supposer qu'il n'osait plus se montrer nulle part, tant il se sentait honteux de tout ce qui lui était arrivé. Pourtant, il s'en fallait de beaucoup que sa maladie fût une feinte. Bien plus, elle avait eu pour effet de le rendre hypochondriaque, maussade, irritable. Ce même hiver, Barbara Ardalionovna épousa Ptitsin. Toutes les connaissances des Ivolgin s'expliquèrent le mariage de la jeune fille par ce fait que Gania, ayant renoncé à ses occupations, avait cessé de subvenir au secours de la famille et même était devenue une charge pour elle. Chez les Epanchine, on ne parlait pas plus de Gabriel Ardalionovitch que s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, là, tout le monde avait appris, très vite même, un détail fort curieux sur son compte. Après sa désagréable aventure chez Nastasia Philipovna, Gania, rentré chez lui, ne s'était pas couché et avait attendu avec une impatience fiévreuse le retour du prince. Celui-ci, qui était allé à Ekaterinov, en revint vers 7 heures du matin. Alors Gania se rendit à la chambre de Mushkin et déposa sur la table la liasse d'assigna dont Nastasia Philipovna lui avait fait cadeau lorsqu'il gisait sans connaissance. Il pria instamment le prince de rendre ce présent à la jeune femme dès qu'il en trouverait l'occasion. En entrant dans la chambre, Gania était animé de sentiments hostiles et presque désespéré, mais ses dispositions se modifièrent dès qu'il eut échangé quelques mots avec le prince. Il passa 2 heures chez lui, et durant tout ce temps ne cessa de sangloter. Ils se quittèrent en amis. Cette nouvelle, dont toute la famille du général eut connaissance, était parfaitement exacte, comme on le sut plus tard. Sans doute il doit paraître étrange que des faits semblables aient pu s'ébruiter si vite. Par exemple, tout ce qui s'était passé chez Nastasia Philipovna parvint, presque dès le lendemain, aux oreilles des dames Epanchine. Quant aux nouvelles concernant Gabriel Ardalionovitch, on aurait pu supposer qu'elles les tenaient de Barbara Ardalionovna, car des relations fort intimes s'étaient soudain établies entre la sœur de Gania et les filles du général, au grand étonnement d'Elisabeth Prokofievna. Mais, quoique Varia eût cru nécessaire de se lier étroitement avec les demoiselles Epanchine, elle ne leur aurait certainement pas parlé de son frère. C'était une personne qui, dans son genre, ne manquait pas de fierté, bien qu'elle se fût faufilée dans une maison d'où son frère avait été, pour ainsi dire, mis à la porte. Les épanchines et elle se connaissaient déjà auparavant. Mais c'était peu vu jusqu'alors. Du reste, maintenant même, Varia ne se montrait guère au salon, et elle prenait l'escalier de service, comme si elle ne faisait qu'entrer en passant. Elisabeth Prokofievna ne lui témoignait jamais aucune bienveillance, quoiqu'elle eût beaucoup d'estime pour Nina Alexandrovna, la mère de Barbara Ardalionovna. Cette liaison causait à la générale autant de surprise que de mécontentement. Elle ne voyait là qu'un caprice de ses filles, qui voulaient toujours en faire à leur tête et ne savaient qu'inventer pour la contrarier. Néanmoins, Barbara Ardalionovna continua ses visites après, comme avant son mariage. Un mois s'était écoulé depuis le départ du prince, lorsque la générale Epanchine reçut une lettre de la vieille princesse Bielokonski, qui, 15 jours auparavant, était allée voir sa fille aînée, mariée à Moscou. Ce que son amie lui mandait, Elisabeth Prokofievna le garda pour elle. Mais divers indices permirent à son entourage de constater que la lecture de ce pli l'avait mise dans un état particulier d'excitation, d'agitation même. Elle devint étrangement causeuse avec ses enfants et commença à leur parler de choses fort extraordinaires. Il était visible qu'elle avait envie de s'expliquer, mais qu'elle ne pouvait s'y résoudre. Le jour où elle reçut la lettre, elle combla ses trois filles de caresses, embrassa même Aglaé et Adélaïde, enfin leur fit une sorte de confession, à laquelle, du reste, ni l'une ni l'autre ne comprit rien. La générale alla jusqu'à se relâcher de sa rigueur envers son mari, à qui elle battait froid depuis un mois. Bien entendu, le lendemain, elle s'en voulut fort d'avoir montré tant de sensibilité la veille, et, avant le dîner, elle avait déjà eu le temps de se quereller avec tout le monde. Mais, vers le soir, l'horizon s'éclaircit de nouveau. Bref, durant 8 jours, on la vit mieux disposée qu'elle ne l'était depuis longtemps. Au bout de la semaine, arriva une seconde lettre de la princesse Bielokonski, et cette fois, Elisabeth Prokofievna se décida à parler. Elle déclara avec solennité que la vieille Bielokonski, quand elle parlait de la princesse, elle ne l'appelait jamais autrement, lui donnait des nouvelles très consolantes de cette originale. Eh bien, voilà, du prince. La vieille l'avait cherché à Moscou, s'était informée de lui et avait obtenu de très bons renseignements. À la fin, le prince était allé lui-même la voir et avait produit sur elle une impression peu ordinaire. Invitée à venir chaque matin chez elle, de 1 heure à 2, il y allait tous les jours, et elle n'était pas encore fatiguée de ses visites. La générale ajouta que la vieille avait introduit le prince dans 2 ou 3 bonnes maisons. « Tant mieux s'il ne vit pas en loup, et s'il n'est pas honteux comme un imbécile !» Les demoiselles à qui étaient faites toutes ces communications remarquèrent aussitôt que leur maman leur cachait une bonne partie du contenu de la lettre. Peut-être avaient-elles été mises au courant par Barbara Ardalionovna, qui pouvait savoir beaucoup de choses par son mari. Tizine, en effet, était plus à même que personne d'être bien renseignée sur les faits et gestes du prince à Moscou. Ce fut un nouveau grief de la générale contre Varia. En tout cas, la glace était rompue et il devenait maintenant possible de parler tout haut du prince. D'autre part, cette circonstance révélait une fois de plus l'intérêt très vif que Mouichkine avait éveillé chez tous les membres de la famille Epanchine. La générale s'étonna même de l'impression produite sur ses filles par les nouvelles de Moscou. De leur côté, les demoiselles relevèrent une étrange contradiction entre les paroles et la conduite de leur maman. Elle leur avait si solennellement déclaré que le trait le plus caractéristique de sa vie avait été de se tromper sans cesse sur les gens, et en même temps, elle avait recommandé le prince à l'attention de la puissante princesse Bielokonski. Or, ce n'était pas une mince affaire que d'appeler sur quelqu'un l'attention de la vieille, car il s'en fallait de beaucoup que celle-ci eût la bienveillance banale. Dès que la glace eut été rompue, le général parla, lui aussi. Du reste, les renseignements qu'il fournit se rapportaient exclusivement au côté positif du sujet. Très soucieux des intérêts du prince, Ivan Fédorovitch l'avait fait surveiller. Lui, et surtout son conseil, Salazkin, par deux messieurs de Moscou, des hommes sûrs et influents dans leur genre. Tout ce qu'on disait de l'héritage était vrai, au fond. Seulement, le bruit public en avait beaucoup exagéré l'importance. Les affaires de Papouchine étaient passablement embrouillées. Il se trouvait avoir laissé des dettes. Plusieurs prétendants revendiquaient la succession. De plus, sourd à toutes les observations, le prince avait agi avec un défaut complet de sens pratique. Certes, le général lui souhaitait sincèrement tout le succès possible. Il se plaisait à le déclarer, maintenant que la glace du silence était rompue. Car ce garçon, bien qu'il ne fût pas tout à fait comme un autre, méritait cela, en somme. Mais, en cette circonstance, il avait entassé sottise sur sottise. Par exemple, beaucoup des créanciers du défunt marchand appuyaient leurs réclamations sur des documents contestables, sans valeur. D'autres même, devinant qu'ils avaient affaire à un homme bonasse, ne produisaient absolument aucune pièce à l'appui de leur dire. Eh bien, les amis du prince avaient eu beau lui représenter que les droits de toutes ces petites gens étaient nuls, il avait soldé presque tous les créanciers. Et cela uniquement parce que quelques-uns d'entre eux paraissaient, en effet, avoir souffert. La générale observa que la vieille Bielokonski lui avait écrit dans le même sens, et que c'était bête, fort bête. On ne guérit pas un imbécile, ajouta-t-elle d'un ton roide. Mais l'expression de son visage montrait combien elle était contente des agissements de cet imbécile. En fin de compte, le général remarqua que sa femme s'intéressait au prince comme à un fils, et qu'elle s'était mise en frais de gentillesse pour Aglaé. Ce que voyant, Ivan Fédorovitch crut devoir pendant quelque temps accentuer son attitude d'homme positif. Mais cette agréable disposition d'esprit ne dura guère. Au bout de 2 semaines, s'effectua un brusque revirement. La mine d'Elisabeth Prokofievna redevint grincheuse, et le général, après avoir plusieurs fois haussé les épaules, dut encore se résigner à la glace du silence. Le fait est que 15 jours auparavant, il avait reçu sous main un avis assez obscur dans son laconisme, mais en revanche parfaitement exact. On lui mandait qu'après s'être enfuie à Moscou, Nastasia Philipovna y avait été découverte par Rogojin. Ensuite, elle avait de nouveau disparu et il l'avait encore retrouvée. Finalement, elle s'était presque engagée à l'épouser. Et voilà que 2 semaines plus tard, une nouvelle stupéfiante parvenait à son Excellence. Pour la 3e fois, Nastasia Philipovna s'était éclipsée. Maintenant, elle se cachait quelque part en province. Et, de son côté, le prince Mushkin avait aussi disparu de Moscou, laissant le soin de toutes ses affaires à Salazkin. Est-il parti avec elle ou pour la rejoindre? On ne le sait pas, mais il y a du louche, acheva le général. Ces informations ne s'accordaient que trop bien avec celles qui avaient été transmises aussi à Elisabeth Prokofievna. Bref, 2 mois après le départ du prince, on avait presque complètement cessé de parler de lui à Pétersbourg, et dans la maison d'Ivan Fédorovitch, la glace du silence n'était plus rompue. Les jeunes filles, toutefois, ne laissaient pas d'être renseignées grâce à Barbara Ardalionovna. Pour en finir avec ces bruits et ces nouvelles, ajoutons qu'au printemps, beaucoup de changements se produisirent chez les Epanchin, en sorte qu'il leur aurait été difficile de ne pas oublier le prince, qui lui-même ne se rappelait nullement à leur attention. Dans le cours de l'hiver, on résolut enfin d'aller passer l'été à l'étranger. On, c'était Elisabeth Prokofievna et ses filles. Le général, bien entendu, jugeait son temps trop précieux pour se permettre une vaine distraction. Le voyage fut décidé sur les instances réitérées des demoiselles. Elles étaient persuadées que leurs parents ne voulaient pas les emmener à l'étranger, parce qu'ils n'avaient en tête que de leur trouver des maris. Peut-être les parents pensèrent-ils de leur côté que les épouseurs se rencontrent partout, et que, loin de gâter les affaires, ce déplacement pourrait au contraire les arranger. Disons en passant qu'il n'était plus question du mariage de Totski avec Alexandra Ivanovna. Les pourparlers que le lecteur connaît n'avaient été suivis d'aucune demande formelle de la part d'Afanase Ivanovitch. L'avortement de l'union projetée remplit de joie Elisabeth Prokofievna. Par contre, son mari s'en consola difficilement. Peu après, le général apprit qu'une Française de la haute société, une marquise légitimiste, avait fait la conquête de Totski. Ce dernier était sur le point d'épouser la belle étrangère, qui allait l'emmener à Paris et de là en Bretagne. « Allons, c'est un homme à la mer !» décida Ivan Fedorovitch. Tandis que les dames Epanchin se disposaient à partir pour l'étranger l'été suivant, une circonstance survint tout à coup qui changea de nouveau la face des choses et, à la grande satisfaction des parents, entraîna l'ajournement du voyage. À Pétersbourg arriva, venant de Moscou, un certain prince homme connu, du reste, et connu de la façon la plus honorable. C'était un de ces honnêtes et modestes pionniers du progrès, comme on en a vu dans ces derniers temps, qui désirent sincèrement se rendre utile, travaillent sans cesse, et se distinguent par une faculté précieuse, celle de trouver toujours quelque chose à faire. Sans se mettre en vedette, sans se mêler aux luttes violentes et stériles des partis, sans se croire une personnalité de premier ordre, le prince ne laissait pas de comprendre, très nettement, les besoins de l'époque contemporaine. Il était d'abord entré au service, ensuite il avait figuré dans les États provinciaux. En dehors de cela, il collaborait, en qualité de membre correspondant, aux travaux de plusieurs sociétés scientifiques russes. Conjointement avec un technologiste de sa connaissance, il avait fait modifier avantageusement le tracé primitif d'une de nos principales voies ferrées. Âgé de 30 ans, homme du meilleur monde, il possédait en outre une fortune sérieuse, indiscutable, comme disait le général, qui, après avoir rencontré le prince chez le comte, son supérieur, était entré en rapport avec lui à l'occasion d'une affaire assez importante. Par suite d'une curiosité particulière, se répugnait nullement à se lier avec les hommes d'affaires russes. Il arriva que le prince fit aussi connaissance avec la famille Epanchin. Adélaïde Ivanovna produisit sur lui une impression assez forte. Vers la fin de l'hiver, il demanda la main de la jeune fille. Le prétendant plut beaucoup à Adélaïde, ainsi qu'à Elisabeth Prokofievna. Le général fut enchanté. On se décida naturellement à différer le voyage, et il fut convenu que la noce aurait lieu au printemps. Au surplus, Elisabeth Prokofievna et ses deux autres filles auraient pu partir, soit au milieu, soit à la fin de l'été, et aller séjourner un mois ou deux à l'étranger pour se distraire un peu du chagrin qu'Adélaïde devait laisser dans la maison paternelle en l'abandonnant. Mais il survint encore quelque chose. À la fin du printemps, le mariage d'Adélaïde avait été un peu retardé et renvoyé au milieu de l'été. Le prince introduisit chez les Epanchines un de ses parents éloignés, un certain Eugène Pavlovitch R., avec qui, du reste, il était assez lié. C'était un jeune homme de 28 ans, aide de camp de l'empereur, beau, bien né, spirituel, brillant, moderne, fort instruit et puissamment riche. Quant au dernier point, le général se tenait toujours sur ses gardes. Il allait aux informations. En effet, il paraît y avoir de la fortune, mais il faut encore s'assurer du fait. La vieille Bielokonski avait écrit de Moscou pour recommander dans les termes les plus chaleureux ce jeune aide-de-camp d'avenir. Toutefois, Eugène Pavlovitch s'était acquis une célébrité légèrement scabreuse. Le bruit public lui attribuait une foule d'aventures galantes. Lorsqu'il eut vu Aglaé, il se mit à fréquenter assidûment la maison Epanchine. À la vérité, rien n'avait encore été dit, même par voie d'allusion. Néanmoins, les parents estimèrent qu'il n'y avait pas lieu de penser à un voyage pour cet été. Aglaé elle-même était peut-être d'un autre avis. Cela se passait très peu de temps avant la rentrée en scène de notre héros. À en juger d'après les apparences, on avait alors complètement oublié à Pétersbourg le pauvre prince Mushkin. Si maintenant il reparaissait tout à coup au milieu de ses connaissances, il devait faire l'effet d'un homme tombé du ciel. Cependant, il nous reste encore à signaler un fait pour terminer cette introduction. Après le départ du prince, Kolia Ivolgin avait d'abord continué à vivre comme par le passé, c'est-à-dire qu'il allait au gymnase, visitait son ami Hippolyte, surveillait le général et secondait Varia dans les soins du ménage. Mais les locataires ne tardèrent pas à s'éclipser. 3 jours après la scène chez Nastasia Philipovna, Ferdichenko disparut et l'on n'eut plus de ses nouvelles. On disait, sans toutefois l'affirmer, qu'il buvait quelque part. Le prince alla à Moscou, de sorte que les chambres louées en garni restèrent vides. Plus tard, lorsque Varia se fut mariée, Nina Alexandrovna et Gania allèrent habiter avec elle chez Ptitsin, à Ismailovski Polk. Pour ce qui est du général Ivolgin, il lui arriva vers le même temps quelque chose d'absolument imprévu. Son amie, Madame Terentieff, à qui il avait souscrit à différentes époques pour 2000 roubles de billets, le fit enfermer à la prison pour dette. Cette manière d'agir causa une profonde surprise au pauvre Ardalion Alexandrovitch, décidément victime de sa confiance illimitée dans la noblesse du cœur humain. En prenant la douce habitude de signer des lettres de change et des billets à ordre, le général n'avait jamais cru possible que ces papiers lui attirassent des ennuis. L'événement lui prouva qu'il s'était trompé. « Fiez-vous aux gens après cela, montrez une noble confiance !» s'écriait-il d'un ton plein d'amertume, tandis qu'assis avec ses nouveaux amis de la maison Tarassov, il leur racontait, inter pocula, des anecdotes sur le siège de Kars et sur un soldat ressuscité. Du reste, il s'accommodait parfaitement de sa position. Ptitsin et Varia disaient que c'était là sa vraie place. Gania partageait entièrement cette façon de voir. Seule la pauvre Nina Alexandrovna pleurait en secret, ce qui même étonnait son entourage. Et, toujours souffrante, allait voir le détenu le plus souvent possible. Depuis l'accident du général, comme disait Kolia, ou plutôt depuis le mariage de sa sœur, le jeune garçon s'était presque complètement émancipé. Ses proches ne le voyaient plus guère, et il était rare qu'il revînt coucher à la maison. Il avait fait, disait-on, beaucoup de connaissances nouvelles. De plus, il était devenu un visiteur assidu de la prison pour dettes, où il accompagnait toujours Nina Alexandrovna. Chez lui, on s'abstenait de l'interroger. Varia, qui le traitait toujours si sévèrement autrefois, ne le questionnait pas au sujet de ses absences. Tout le monde au logis remarqua avec surprise que Gania, nonobstant son hypocondrie, adressait la parole à son frère et que des relations amicales s'étaient établies entre eux. Jusqu'alors, il n'en avait pas été ainsi. Le jeune homme, ne voyant dans son cadet qu'un galopin sans conséquence, lui témoignait auparavant le dédain le plus grossier et le menaçait sans cesse de lui tirer les oreilles, ce qui mettait Kolia hors de lui. Il semblait qu'à présent, Gania eut besoin de son frère. Ce dernier, de son côté, se sentait disposé à lui pardonner bien des choses, depuis qu'il savait que Gania avait refusé les 100 000 roubles de Nastasia Philipovna. 3 mois après le départ du prince, la famille Ivolgin fut informée que Kolia avait brusquement fait connaissance avec les Epanchin et qu'il était très bien reçu par les demoiselles. Varia l'apprit très vite. Kolia, du reste, n'avait pas prié sa sœur de l'introduire, il s'était présenté lui-même. Peu à peu, on le prit en affection chez les Epanchin. La générale commença par l'accueillir très froidement, mais bientôt il lui plut, parce qu'il était franc et point flatteur. Personne ne méritait mieux que Kolia d'être qualifié de la sorte. Il avait su se placer vis-à-vis de ses nouveaux amis sur un pied d'égalité et d'indépendance complète. Si, parfois, il lisait à la générale des livres et des journaux, c'était parce qu'il aimait à faire plaisir. Du reste, la « question des femmes » faillit le brouiller avec Elisabeth Prokofievna. Au cours d'une discussion très vive à ce sujet, il déclara à la vieille dame qu'elle était une despote et qu'il ne remettrait plus le pied chez elle. Quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le surlendemain de la querelle, la générale lui envoya, par un domestique, un mot pour le prier de revenir. Kolia ne fit point l'entêté et arriva immédiatement. Aglaé était la seule dont il n'eût pu gagner les bonnes grâces et qui lui parla toujours avec hauteur. Pourtant, il était dit que l'enfant étonnerait aussi jusqu'à un certain point l'orgueilleuse jeune fille. Un jour, Kolia profita d'un moment où il se trouvait en tête-à-tête et lui tendit une lettre, en se bornant à dire qu'il avait ordre de la lui remettre en main propre. Aglaé regarda d'un air menaçant le présomptueux gamin, mais celui-ci se retira aussitôt. Elle déplia la lettre et lut ce qui suit. « Jadis, vous m'avez honoré de votre confiance. Peut-être m'avez-vous complètement oublié maintenant. Comment se fait-il que je vous écrive ? Je n'en sais rien. Mais je ne puis résister au désir de me rappeler à vous particulièrement. Bien des fois j'ai eu grand besoin de vous trois, mais parmi vous trois, je ne voyais que vous. Vous m'êtes nécessaire, très nécessaire. En ce qui me concerne, je n'ai rien à vous écrire, rien à vous raconter. D'ailleurs, je n'y tiens pas. Je désirerais fort votre bonheur. Êtes-vous heureuse ? Voilà tout ce que je voulais vous dire. Votre frère, Prince L. Mouichkine. » Après avoir lu ces quelques lignes passablement absurdes, Aglaé rougit soudain et devint pensive. Il nous serait difficile de reproduire le cours de ses pensées. Elle se posa notamment la question suivante. « Montrerai-je cette lettre à quelqu'un ?» Elle se sentait comme honteuse. À la fin, avec un sourire étrange et moqueur, elle jeta le billet dans le tiroir de sa table. Le lendemain, elle l'en retira et le mit dans un gros livre, comme elle avait coutume de le faire pour les papiers qu'elle voulait pouvoir retrouver tout de suite. Ce fut seulement 8 jours plus tard qu'elle s'avisa de regarder ce qu'était ce livre. il se trouva être le Don Quichotte de la Manche. Aglaé partit d'un éclat de rire, sans que nous puissions dire pourquoi. Nous ne savons pas non plus si la jeune fille montra à quelqu'une de ses sœurs la lettre qu'elle avait reçue. Mais, après une seconde lecture de ce billet, une question s'offrit brusquement à son esprit. Se peut-il que le prince ait choisi ce gamin présomptueux et fanfaron pour son correspondant? Peut-être même est-ce le seul qu'il possède ici. Bien que d'un air très méprisant, elle ne laissa pas d'interroger Colia. Ce dernier, toujours susceptible, ne fit pas cette fois la moindre attention au mépris d'Aglaé. Il déclara en termes brefs et assez secs qu'il avait, à tout hasard, offert ses services et donné son adresse au prince au moment du départ de celui-ci, mais que c'était la première commission dont le prince le chargeait et la première lettre qu'il recevait de lui. Pour prouver ses paroles, il présenta à la jeune fille la lettre qui lui avait été adressée à lui-même. Aglaé n'hésita pas à en prendre connaissance. Voici ce que le prince écrivait à Colia. « Cher Colia, soyez assez bon pour remettre le billet ci inclus à Aglaé Ivanovna. Portez-vous bien. Votre affectionné, Prince L. Mushkin. »
C'est ridicule pourtant de se fier à un pareil moutard,
dit Aglaé d'un ton injurieux en rendant la lettre à Colia. Et sur cette observation blessante, elle le quitta. Colia ne put supporter ce dédain. Exprès pour la circonstance, il s'était fait prêter par Gania une écharpe verte, encore toute neuve, sans dire à son frère pourquoi il la lui demandait. Il fut cruellement mortifié. Chapitre 2. On était au commencement de juin, et depuis une semaine, Pétersbourg jouissait d'une température exceptionnellement agréable. Les Epanchines possédaient à Pavlovsk une somptueuse villa. Elisabeth Prokofievna fut soudain prise du désir de s'y rendre avec sa famille, et, deux jours après, on se transporta à la campagne. Le lendemain, ou le surlendemain du départ des Epanchines, le prince Léon Nikolaïevitch Mushkin arriva de Moscou par un train du matin. Personne n'était venu à sa rencontre à la gare. Toutefois, au sortir du wagon, dans la foule massée autour des voyageurs, le prince aperçut tout à coup deux yeux ardents dont le regard offrait une expression étrange. Il essaya de rechercher à qui appartenaient ces deux yeux, mais il ne distingua plus rien. Si fugitive qu'eût été cette vision, elle lui laissa une impression déplaisante. D'ailleurs, le prince était déjà triste et soucieux. Quelque chose semblait le préoccuper. Son cocher le conduisit à un mauvais hôtel, situé non loin de la Litéinaïa. Le prince loua de petites chambres, sombres et mal meublées, puis il se lava, changea de vêtements et se hâta de sortir. Si un de ceux qu'il avait connus 6 mois auparavant, lors de son premier séjour à Pétersbourg, avait jeté les yeux sur lui en ce moment, il aurait sans doute constaté un changement fort avantageux dans son extérieur. Pourtant, c'eût été une erreur, peut-être. La mise seule du prince avait subi une transformation complète. Il était maintenant vêtu d'habits faits par un des bons tailleurs de Moscou. Mais, au défaut de suivre la mode de trop près, cette toilette joignait celui d'être porté par un homme qui n'avait nullement les façons d'un petit maître. Aussi, un observateur enclin à la moquerie aurait-il pu trouver là matière à rire. Mais qu'est-ce qui ne prête pas à la risée? Le prince prit une voiture et se fit conduire au sable. Dans une des rues de la Nativité, il découvrit bientôt la maison qu'il cherchait.
C'était une petite maisonnette en bois, dont il remarqua avec surprise l'air avenant, propre et bien tenu. Autour de cette habitation, il y avait un enclos où on cultivait des fleurs. Les fenêtres donnant sur la rue étaient ouvertes et laissaient arriver au dehors un flot incessant de paroles bruyantes, presque criardes, comme si quelqu'un faisait une lecture à haute voix ou même prononçait un discours. Celui qui parlait était de temps à autre interrompu par des rires sonores. Le prince entra dans la cour et monta le perron. Une cuisinière, aux manches retroussées jusqu'au coude, lui ouvrit la porte. Le visiteur demanda « Monsieur Lebedev ». « Mais il est là !» répondit-elle en montrant du doigt le salon. Cette pièce, tapissée d'un papier bleu foncé, était meublée convenablement et même avec une certaine prétention. C'est-à-dire qu'il s'y trouvait une table ronde, un divan, une pendule de bronze placée sous une cloche, une glace étroite adossée au trumeau et un petit lustre suspendu au plafond par une chaînette de bronze. Lorsque le prince entra, Monsieur Lebedev, debout au milieu de la chambre, tournait le dos à la porte. Vu la chaleur, le maître de la maison ne portait aucun vêtement par-dessus son gilet. Il pérorait en se frappant la poitrine. Ses auditeurs étaient un garçon de 15 ans, à la mine rieuse et poinçotte, qui tenait un livre dans ses mains. Une jeune fille de 20 ans, toute vêtue de deuil et portant sur ses bras un enfant à la mamelle. Une fillette de 13 ans, en deuil aussi, qui riait fort, et en riant, ouvrait démesurément la bouche. Enfin, un assez beau jeune homme de 20 ans, couché sur le divan. Ce dernier avait de longs et épais cheveux bruns, de grands yeux noirs, un léger soupçon de barbe et de favoris. Il devait interrompre fréquemment l'orateur pour le contredire, ce qui apparemment excitait l'hilarité des autres personnes présentes. Loukian Timofeïtch, hé, Loukian Timofeïtch, voyez donc ça, mais regarde donc par ici. Allons, il n'y a rien à faire. Et, après avoir esquissé un geste de découragement, la cuisinière se retira toute rouge de colère. Lebedev tourna la tête, et, en apercevant le prince, il resta quelque temps comme pétrifié. Puis il s'élança vers lui avec un sourire servile, mais, avant qu'il se fût approché du visiteur, la stupéfaction le cloua de nouveau à sa place. « Excellentissime prince » eut-il pourtant la force de s'écrier. Soudain, comme s'il n'eût pu encore recouvrer sa présence d'esprit, il se retourna et, de but en blanc, fondit sur la jeune fille en deuil qui avait un enfant dans ses bras. Le mouvement fut si brusque qu'elle recula un peu. Mais aussitôt, Lebedev la quitta pour se précipiter vers la petite fille de 13 ans, qui, debout sur le seuil de la pièce voisine, laissait voir encore sur son visage les traces d'une hilarité mal étouffée. La fillette ne put retenir un cri et s'enfuit immédiatement à la cuisine. Lebedev se mit à frapper du pied, mais, rencontrant le regard du prince, qui le considérait d'un air abasourdi, il murmura en manière d'explication « Pour le respect, vous avez bien tort de… » commença le prince. « Tout de suite, tout de suite, tout de suite, comme un tourbillon !» Et Lebedev sortit précipitamment de la chambre. Le prince regarda avec étonnement la jeune fille, le garçon de 15 ans et l'individu couché sur le divan. Tous riaient. Le visiteur fit chorus avec eux. « Il est allé mettre un frac !» dit l'enfant. « Comme tout cela est vexant !» observa le prince. « Je pensais… Dites-moi, il… »«
Vous croyez qu'il est ivre ?» cria l'homme étendu sur le divan. « Pas du tout. Il a bu 3 ou 4 petits verres, peut-être 5, mais qu'est-ce que cela? C'est le nombre réglementaire. »
Au moment où le prince allait prendre la parole, il fut prévenu par la jeune fille, dont le gracieux visage respirait une entière franchise. « Jamais il ne boit beaucoup le matin, » dit-elle. « Si vous êtes venu le trouver pour affaire, parlez-lui maintenant, c'est le moment. Quand il revient le soir, il est ivre. À présent, il passe la plus grande partie de la nuit à pleurer, et il nous lit à haute voix des passages de l'Écriture sainte, parce que notre mère est morte il y a 5 semaines. Il s'est sauvé, parce que, assurément, il lui était difficile de vous répondre, » reprit en riant le personnage couché sur le divan. « Je parie qu'il vous trompe et qu'en ce moment même, il rumine quelque chose. » Lebedev rentra. Il venait de passer un habit. « Depuis 5 semaines, pas plus de 5 semaines, » répéta-t-il en clignant les yeux et en tirant un mouchoir de sa poche pour essuyer des larmes. « Orphelin !»« Mais pourquoi avoir mis un vêtement tout troué ?» demanda la jeune fille. « Vous avez là, derrière la porte, une redingote neuve. Est-ce que vous ne l'avez pas vue ?»« Tais-toi, libellule !» gronda Lebedev. « Foin de toi » ajouta-t-il en trépignant. Mais cette fois, elle ne fit que rire de la colère paternelle. « Pourquoi voulez-vous me faire peur ? Je ne suis pas Tania, moi, je ne m'enfuirai pas. Et tenez, vous allez réveiller Lubotchka, et elle aura encore des convulsions. » « Pourquoi crier ainsi ?»« Allons, allons, c'est tout, » répondit le maître de la maison, pris soudain d'une vive inquiétude, et, s'élançant vers l'enfant qui dormait sur les bras de sa fille, il le bénit plusieurs fois d'un air effrayé. « Seigneur, conserve-le ! Seigneur, préserve-le ! Cet enfant à la mamelle est ma fille Lubov !» continua-t-il en s'adressant au prince. Elle est née en légitime mariage de ma défunte femme Hélène, décédée en couche. Et ce Vano est ma fille Viera, en deuil. Et celui-ci... Pourquoi t'interromps-tu ? Cria le jeune homme. Allons, continue, ne te trouble pas. Altesse, fit avec élan Lebedev, avez-vous lu dans les journaux l'assassinat de la famille Gémarine ? « Oui, » répondit le prince un peu étonné. « Eh bien, voilà le vrai meurtrier de la famille Gémarine. C'est lui, lui-même. »«
Qu'est-ce que vous dites ? » répliqua le visiteur.
« C'est une manière allégorique de parler. Il est le second assassin futur d'une deuxième famille Gémarine, s'il en rencontre une. Il s'y prépare. »
Tous se mirent à rire. L'idée vint au prince que peut-être, en effet, Lebedev l'entretenait à dessein de choses oiseuses parce qu'il pressentait des questions embarrassantes et voulait gagner du temps.
« C'est un factieux, un conspirateur !» vociféra Lebedev, qui semblait ne pouvoir plus se contenir. « Eh bien, une si mauvaise langue, un fornicateur, un monstre pareil, ai-je le droit de le considérer comme mon propre neveu ?» comme le fils unique de ma défunte sœur Anisia.
Mais tais-toi donc, tu es ivre. Le croirez-vous, prince? À présent, il s'est avisé d'exercer la profession d'avocat. Il cultive l'éloquence, et chez lui ne cesse de tenir à ses enfants des discours d'un style élevé. Il y a 5 jours, il a plaidé devant la justice de paix. Et pour qui donc a-t-il plaidé? Une vieille femme dépouillée de 500 roubles. Tout son avoir. Par un coquin d'usurier. L'avait instamment supplié de prendre en main ses intérêts. Eh bien, au lieu de plaider pour elle, il a défendu l'usurier, un juif nommé Zedler, parce que celui-ci lui avait promis 50 roubles.
C'était 50 roubles si j'obtenais gain de cause, et 5 roubles seulement en cas de perte, rectifia Lebedev.
Il donna cette explication d'un ton calme et posé, qui formait un contraste aussi étrange que subit avec l'animation de ses paroles précédentes.
« Eh bien, naturellement, il a fait fiasco. La justice n'est plus rendue comme autrefois, et il a seulement excité la risée. Mais malgré cela, il est resté très content de lui-même. « Juge impartiaux, a-t-il dit, Songez qu'un malheureux vieillard, privé de l'usage de ses jambes, vivant d'un travail honorable, est dépouillé de son dernier morceau de pain. Rappelez-vous la sage parole du législateur, que la clémence règne dans les tribunaux. Et figurez-vous que chaque matin, ici, il nous récite d'un bout à l'autre cette même plaidoirie, telle qu'il l'a prononcée là-bas. Nous l'avons entendue aujourd'hui pour la 5e fois. Au moment où vous êtes arrivé, il était encore en train de la débiter, tant elle lui plaît. Il s'empourlèche les babines, et il se dispose à plaider encore pour quelqu'un. Vous êtes, je crois, le prince Mishkine ? Kolia m'a dit n'avoir jamais rencontré d'homme plus intelligent que vous dans le monde. Non, non, il n'y a pas d'homme plus intelligent dans le monde, s'empressa de confirmer les Bedef. Cette opinion n'a peut-être aucune importance. L'un vous aime et l'autre vous cajole. Moi, je n'ai nullement l'intention de vous flatter, soyez-en convaincus. Mais vous n'êtes pas dépourvu de sens. Eh bien, soyez juge entre lui et moi. « Allons, veux-tu que nous prenions le prince pour arbitre ?» ajouta-t-il en s'adressant à son oncle. « Je suis bien aise, prince, que le hasard vous ait amené ici. »« Je le veux !» fit avec force Lebedev. Et machinalement, il jeta un regard sur le public qui s'était de nouveau rapproché des deux interlocuteurs. « Mais pourquoi êtes-vous en désaccord ?» dit le prince dont le visage s'était renfrogné. Outre qu'il avait mal à la tête, il était de plus en plus persuadé que Lebedev ne jouait pas franc jeu avec lui et se plaisait à différer le moment d'une explication. Voici l'exposé de l'affaire. Je suis son neveu, sur ce point il a dit la vérité, quoiqu'il mente toujours. Je n'ai pas terminé mes études universitaires, mais je veux les achever et j'y parviendrai, car j'ai du caractère. En attendant, je vais, pour subsister, occuper un emploi de 25 roubles dans un chemin de fer. Indépendamment de cela, j'avoue qu'il m'est déjà venu en aide 2 ou 3 fois. J'avais 20 roubles et je les ai perdus au jeu. Croirez-vous, prince, que j'ai été assez lâche, assez bas pour jouer cet argent ? Celui qui te l'a gagné est un drôle que tu n'aurais même pas dû payer, cria Lebedev. « Oui, c'est un drôle, mais je devais le payer, » reprit le jeune homme. « Quant à être un drôle, il en est un certainement, et je ne dis pas cela parce qu'il t'a rossé. Prince, c'est un officier chassé du service, un ex-lieutenant qui a fait partie de la bande de Rogojin et qui est professeur de boxe. Tous ces gens-là flânent sur le pavé maintenant que Rogojin les a licenciés. Mais le pis, c'est que, le connaissant pour un drôle, un coquin, un filou, je n'en ai pas moins joué avec lui, et qu'en risquant mon dernier rouble, nous jouions au palki. Je pensais à part moi, si je perds, j'irai trouver mon oncle Lebedev, je lui ferai des courbettes, il ne me refusera pas un secours. C'est cela qui est une bassesse, une vraie bassesse, une lâcheté consciente d'elle-même. « En effet, c'est une lâcheté consciente d'elle-même, » observa également Lebedev. « Allons, attends encore un peu avant de triompher, » répliqua violemment le neveu, dont ces mots avaient ému la susceptibilité. « Il jubile. Je suis venu le trouver ici, prince, et je lui ai tout avoué. J'ai agi noblement. Je ne me suis pas ménagé. J'ai, au contraire, qualifier ma conduite en termes aussi sévères que possible. Tout le monde ici en a été témoin. Pour occuper l'emploi dont je parlais tout à l'heure, il faut absolument que je me requinque un peu, car je suis mis comme un va-nu-pied. Tenez, regardez mes bottes. Il m'est impossible de me rendre à mon poste dans cette tenue. Et si, passé le terme fixé, je n'ai point paru à mon bureau, la place sera donnée à un autre. Je devrais alors tâcher de me caser ailleurs. À présent, je lui demande en tout et pour tout 15 roubles. Je m'engage à ne plus jamais faire appel à son obligeance. Et de plus, je promets de lui rembourser, dans un délai de 3 mois, le montant intégral de ma dette. Je tiendrai parole. Je sais vivre de pain et de quoisse durant des mois entiers, parce que j'ai du caractère. Mon traitement, pour 3 mois, sera de 75 roubles. L'argent que je lui demande, ajouté aux sommes empruntées précédemment, formera un total de 35 roubles. Ainsi, j'aurai de quoi payer. Allons, le diable m'emporte, qu'il exige les intérêts qu'il voudra. Est-ce qu'il ne me connaît pas? Demandez-le lui, prince. L'argent qu'il m'a prêté autrefois, est-ce que je ne le lui ai pas rendu? Pourquoi donc, maintenant, est-il si serré? Il m'en veut parce que j'ai payé ce lieutenant. Il n'y a pas d'autre raison. Voilà quel est cet homme. Rien pour lui, rien pour autrui.
Et il ne s'en ira pas, vociféra Lebedev. Il s'est installé ici et il y reste.
Je te l'ai déjà dit. Je ne m'en irai pas avant d'avoir obtenu ce que je demande. Pourquoi souriez-vous, prince? Vous avez l'air de me désapprouver.
Je ne souris pas. Mais je trouve qu'en effet, vous êtes un peu dans votre tort, répondit avec répugnance le visiteur.
Parlez donc franchement, dites sans biaiser que je suis tout à fait dans mon tort. Pourquoi ce « un peu »
Si vous voulez, je dirai que vous êtes tout à fait dans votre tort.
Si je veux, voilà qui est plaisant. Pensez-vous donc que je m'abuse sur l'inconvenance flagrante de ma manière d'agir ? Je sais fort bien moi-même que son argent est à lui et que mon procédé ressemble à une tentative d'extorsion.
Mais vous, prince, vous ne connaissez pas la vie. Si on ne leur donne pas une leçon, ils ne comprendront rien. Il faut les instruire. Mes intentions sont parfaitement honnêtes. En conscience, je ne lui ferai rien perdre. Je lui rembourserai le capital avec les intérêts. Il a aussi obtenu une satisfaction morale. Il a vu mon abaissement. Que lui faut-il donc de plus? Et à quoi sera-t-il bon s'il ne veut rendre aucun service? Voyez un peu ce qu'il fait lui-même. Demandez-lui donc comment il en use avec les autres, comment il trompe les gens, de quelle façon s'y est-il pris pour acquérir cette maison? Je donne ma tête à couper s'il ne vous a pas déjà mis dedans et s'il ne projette pas de vous tromper encore. Vous souriez? Vous ne le croyez pas?
Il me semble que tout cela n'a pas grand rapport avec votre affaire, remarqua le prince.
Voilà 3 jours que je couche ici,
cria le jeune homme sans s'arrêter à cette observation. Et que n'ai-je pas appris déjà?
Figurez-vous que cet ange, cette jeune fille, maintenant orpheline, qui est ma cousine Germaine, et sa fille, il la soupçonne. Il cherche toutes les nuits si un bon ami n'est pas caché dans sa chambre. Il vient aussi à pas de loup dans cette pièce et regarde sous le divan qui me sert de lit. La défiance lui a fait perdre la raison. Il voit des voleurs dans chaque coin. La nuit, il est continuellement sur pied. Il se relève au moins 7 fois pour s'assurer que les fenêtres et les portes sont bien fermées, pour jeter un coup d'œil dans le poêle. Ce même homme qui plaide en faveur des fripons quitte son lit 3 fois par nuit et vient se mettre en prière ici dans la salle. Il s'agenouille, se cogne le front contre le sol pendant 1/2 heure, et pour qui ne prie-t-il pas? Qu'est-ce qui ne défile pas dans ces orémus d'ivrogne? Il a prié pour le repos de l'âme de la comtesse du Barry, je l'ai entendu de mes oreilles. Kolia l'a entendu aussi. Il a complètement perdu l'esprit.
Vous voyez? Vous entendez comme il me bafoue, prince?
S'écria en rougissant Lebedev hors de lui.
Je puis être un ivrogne, un débauché, un être malfaisant, un voleur, mais j'ai du moins une chose pour moi.
Il ne sait pas, ce persifleur, que quand il est venu au monde, c'est moi qui l'ai emmailloté, moi qui l'ai lavé. Ma sœur Anisia avait perdu son mari et se trouvait dans la misère. Moi, qui n'étais pas moins pauvre qu'elle, j'ai passé des nuits entières à la veiller. Je soignais la mère et l'enfant, malades tous deux. J'allais en bas voler du combustible chez le dvornik. Mourant de faim, je chantais en faisant claquer mes doigts pour endormir le baby. Bref, je lui ai servi de gna-gna. Et voilà qu'à présent il se moque de moi. Et quand même j'aurais fait un signe de croix pour le repos de l'âme de la comtesse du Barry. Que t'importe? Prince, Il y a 3 jours, j'ai lu, pour la première fois de ma vie, la biographie de cette femme dans un dictionnaire historique. Sais-tu, toi, ce qu'elle était, la du Barry ? Parle ! Le sais-tu, oui ou non ?
Allons, il n'y a que toi qui le saches, n'est-ce pas ?
Grommela le jeune homme en affectant un ton railleur. C'était une comtesse qui, sortie du bourbier, a gouverné comme une reine et à qui une grande impératrice a écrit de sa propre main une lettre où elle l'appelait « Ma chère cousine » au lever du roi. Sais-tu ce que c'était que le lever du roi ? Un cardinal, un nonce du pape, s'offrait à lui mettre ses bas de soie. Un si haut et si saint personnage regardait cela comme un honneur. Connaissais-tu ce détail ? Je vois à ta mine que tu l'ignorais. Eh bien, comment est-elle morte ? Réponds, si tu le sais. Laisse donc, tu es assommant. Voici quelle fut sa mort. Après tant d'honneur, après s'être vue quasiment souveraine, elle a été guillotinée par le bourreau Samson. Elle était innocente, mais il fallait cela pour la satisfaction des poissardes du Paris. Sa frayeur était telle qu'elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Lorsque Samson lui fit courber la tête et la poussa à coups de pied sous le couperet, elle se mit à crier « Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment !» Eh bien, pour cette minute, le Seigneur lui pardonnera peut-être, car il est impossible à l'âme humaine d'imaginer une situation plus douloureuse. En lisant ce récit, j'avais le cœur serré comme par des tenailles. Mais que t'importe, vermisseau, qu'en faisant ma prière du soir, j'ai songé à implorer la miséricorde divine pour cette grande pécheresse. Si je l'ai fait, c'est peut-être parce que, depuis qu'elle est morte, personne sans doute ne lui a jamais accordé un pieux souvenir. Et dans l'autre monde, il lui sera agréable de penser qu'il s'est rencontré sur la terre un pécheur comme elle, qui, une fois du moins, à prier pour le salut de son âme. Pourquoi ris-tu ? Tu ne le crois pas, athée. Mais qu'en sais-tu ? D'ailleurs, ta relation est infidèle. Si tu as écouté ma prière, tu dois savoir que je n'ai pas prié pour la seule comtesse du Barry. Voici ce que j'ai dit. Donne, Seigneur, le repos à l'âme de la grande pécheresse qui fut la comtesse du Barry, et à tous ses pareils. Or, c'est tout autre chose, car il y a beaucoup de grandes pécheresses qui lui ressemblent, beaucoup de gens aussi qui ont connu toutes les vicissitudes de la fortune, et qui maintenant, dans l'autre monde, souffrent, gémissent et attendent. J'ai également prié alors pour toi, ainsi que pour les insolents et les effrontés, tes pareils, puisque tu tiens à savoir comment je prie. « Allons, c'est bien, en voilà assez, prie pour qui tu voudras, que le diable t'emporte !» interrompit violemment le neveu. « C'est un érudit que nous avons là, vous ne le saviez pas, prince » ajouta-t-il avec un sourire forcé. « À présent, il ne fait que lire toutes sortes de livres et de mémoires. » « Votre oncle, après tout, n'est pas un homme dépourvu de sensibilité. » observa le prince. Il devait faire un effort sur lui-même pour adresser la parole au neveu qui lui déplaisait extrêmement. « Oh, comme vous le vantez ! Voyez, il porte la main à sa poitrine et il fait la bouche en cœur. Vos paroles l'ont tout de suite affriolé. Ce n'est pas un homme dépourvu de sensibilité, soit, mais c'est un fripon, voilà le malheur. De plus, il s'est adonné à la boisson et il a l'esprit détraqué, comme tout individu qui, depuis plusieurs années, se livre à l'ivrognerie. Il aime ses enfants, je veux bien le reconnaître. Il respectait ma tante, sa défunte femme. Il a même de l'affection pour moi, et il ne m'a pas oublié dans son testament.
« Je ne te laisserai rien !»
cria avec colère l'employé. « Écoutez, les Bédef, commença d'un ton ferme le visiteur en se détournant du jeune homme. « Je sais par expérience que, quand vous voulez, vous êtes un homme sérieux. J'ai fort peu de temps à moi, et si vous... pardon, quels sont vos noms ? Je les ai oubliés.
Timofei. Et Lukianovitch.
Tout le monde dans la chambre se mit à rire.
Il ment, cria le neveu. Ici encore, il faut qu'il mente.
Prince, il ne s'appelle pas du tout Timofei Lukianovitch, mais bien Lukian Timofeïevitch.
Allons, dis-moi pourquoi tu mentis. Lukian ou Timofei, n'est-ce pas tout un pour toi? Et qu'est-ce que cela peut faire au prince?
Il ment sans la moindre nécessité, en vertu de l'habitude, je vous l'assure.
Est-il possible que ce soit vrai? Demanda impatiemment le prince.
Je m'appelle en effet Lukian Timofeïevitch,
reconnut d'un air confus Lebedev, qui baissa humblement les yeux et porta de nouveau la main à son cœur.
Mais pourquoi donc avez-vous répondu comme vous l'avez fait?
Oh, mon Dieu!
Pour m'amoindrir moi-même,
murmura Lebedev en baissant la tête avec une humilité croissante.
Et qu'est-ce que c'est que cet amoindrissement? Si seulement je savais où trouver maintenant Kolia!
Reprit le prince en faisant un mouvement comme pour se retirer.
Je vais vous apprendre où est Kolia, dit le jeune homme.
Non, non, non,
fit précipitamment Lebedev.
Kolia a passé la nuit ici, mais ce matin il est parti à la recherche de son général, que vous avez, Dieu sait pourquoi, prince, fait sortir de prison en payant ses dettes. Hier, le général avait promis de venir loger ici, et il n'est pas venu. Selon toute probabilité, il est allé coucher à l'hôtel de la Balance, tout près d'ici. Kolia est donc là, à moins qu'il ne se soit rendu à Pavlovsk, chez les Epanchin. Il avait de l'argent, et hier déjà il voulait y aller. Ainsi, il ne peut être qu'à la Balance ou à Pavlovsk.
À Pavlovsk? À Pavlovsk? Mais allons au jardin, nous y prendrons du café. »
Et Lebedev, saisissant le prince par le bras, l'entraîna hors de la chambre. Ils traversèrent la cour et entrèrent dans un charmant petit jardin où, grâce au beau temps, tous les arbres avaient déjà revêtu leur parure d'été. Lebedev fit asseoir le visiteur sur un banc de bois peint en vert, devant une table de même couleur dont le pied était fiché dans le sol. Et il prit place en face de lui. Au bout d'un instant, on apporta le café. Le prince ne refusa pas d'en prendre. Le maître de maison continuait à le regarder en plein visage avec une expression de servilité passionnée.
« Je ne connaissais pas encore votre intérieur, » dit le prince, qui paraissait songer à tout autre chose.
« Or, orphelin !»
commença Lebedev en donnant à sa physionomie un air de tristesse, mais il s'interrompit. Le prince regardait distraitement devant lui et, sans doute, avait déjà oublié ce qu'il venait de dire. Il s'écoula encore une minute. Lebedev attendait, les yeux toujours fixés sur le visiteur.
« Eh bien, quoi ? »
fit celui-ci s'arrachant à sa rêverie.
« Ah oui, voyons. « Vous savez vous-même, Lebedev, de quoi il s'agit entre nous. C'est votre lettre qui m'a fait venir. Parlez !»
L'employé se troubla. Il voulut dire quelque chose, mais ne put proférer que des sons inintelligibles. Le prince attendait avec un triste sourire sur les lèvres.
« Je vous comprends fort bien, je crois, Lukian Timofeïevitch. Vous ne m'attendiez certainement pas. Vous ne pensiez pas que je quitterais mon gîte au premier avis reçu de vous, et vous m'avez écrit pour l'acquit de votre conscience. Vous voyez pourtant que je suis venu. Allons, assez de finasserie, cessez de servir de maître. Rogojine est ici depuis 3 semaines, je sais tout. Avez-vous réussi à la lui vendre comme l'autre fois, oui ou non? Dites la vérité.
« C'est lui-même, le monstre qu'il a découverte, lui-même !»«
Ne l'injuriez pas, vous avez sans doute à vous plaindre de lui. »«
Il m'a battu, roué de coups !»
répondit avec une véhémence extraordinaire Lebedev.
« À Moscou, il a lancé un chien contre moi. Il a mis à mes trousses un lévrier. » une terrible bête qui m'a donné la chasse tout le long d'une rue.
Vous me prenez pour un petit enfant, Lebedev. Dites-moi, c'est sérieusement qu'elle vient de le quitter à Moscou ?
Sérieusement, sérieusement, et cette fois encore à la veille même de la noce. Il comptait déjà les minutes quand elle a filé à Pétersbourg. Arrivée ici, elle est venue immédiatement me trouver. « Sauve-moi, Loukian, procure-moi un asile et ne dis rien au prince. »«
Elle vous craint, prince, encore plus que lui. Et ici, c'est de la haute sagesse. »
Se disant, Lebedev, d'un air finaud, appuya son doigt sur son front.
« Et maintenant, vous les avez rapprochés l'un de l'autre ?»«
Excellentissime prince, comment pouvais-je ? Comment pouvais-je empêcher ce rapprochement ?»«
Allons, assez, je saurai tout par moi-même. Dites-moi seulement où elle est maintenant. Chez lui ?»«
Oh non, pas du tout, elle fait encore ménage à part.
Je suis libre, dit-elle.
Et vous savez, prince, elle insiste beaucoup sur ce point. Je suis complètement libre, ne cesse-t-elle de répéter.
Et elle continue à habiter dans la Petersburgskaya, chez ma belle-sœur, comme je vous l'ai écrit.
Elle y est en ce moment même ?
Oui, à moins qu'elle ne soit à Pavlovsk. Le beau temps l'aura peut-être décidé à se transférer à la campagne, chez Daria Alexievna.
Je suis tout à fait libre, dit-elle.
Pas plus tard qu'hier, elle a encore fait sonner bien haut sa liberté dans une conversation avec Nicolas Ardalionovitch.
« Mauvais signe !»
ajouta en souriant Lebedev.
« Kolia va souvent la voir ?»«
C'est un garçon étourdi, inconcevable et sans discrétion. »«
Il y a longtemps que vous n'êtes allé chez elle ?»«
J'y vais chaque jour, chaque jour !»
« Alors, vous y êtes allé hier ?»«
Non, je n'y suis pas allé depuis 3 jours. »«
Quel dommage que vous ayez un peu bu, Lebedev. Sans cela, je vous demanderai quelque chose. »«
Soyez tranquille, je ne suis pas ivre du tout, »
répondit l'employé qui s'apprêta à écouter.
« Dites-moi, comment était-elle quand vous l'avez quittée ?»«
C'est une femme qui cherche... »
Qui cherche ?
Elle a toujours l'air de chercher, comme si elle avait perdu quelque chose. L'idée seule de son prochain mariage lui répugne. Elle y voit un affront pour elle.
De lui, elle se soucie comme d'une écorce d'orange, pas plus.
Je me trompe. Elle pense à lui avec crainte, avec terreur. Elle défend même qu'on aborde ce sujet d'entretien. Il ne se voit que par nécessité. Et il sent cela très bien. Mais il faut en passer par là.
Elle est inquiète, moqueuse, double, emportée.
Double et emportée?
La preuve qu'elle est emportée, c'est que la fois passée, elle a failli me prendre aux cheveux pour une parole dite par moi.
J'ai entrepris de la guérir par la lecture de l'Apocalypse.
Comment ?
Demanda le prince, croyant avoir mal entendu.
Par la lecture de l'Apocalypse ? Cette dame a l'imagination inquiète. De plus, j'ai observé en elle un goût prononcé pour les sujets de conversation sérieux, quelque indifférent qu'ils soient. Elle les aime beaucoup, et c'est même la flatter que de les traiter avec elle. Oui, or je suis ferré sur l'explication de l'Apocalypse, et je m'en occupe depuis 15 ans. Elle a reconnu avec moi que nous sommes à l'époque figurés par le 3e cheval, le noir, et par le cavalier qui tient en main une mesure, car dans notre siècle, tout repose sur la mesure et sur les contrats. Tous les hommes ne cherchent que leurs droits. Une mesure de froment pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais avec cela, ils veulent aussi conserver un esprit libre, un cœur pur, un corps sain et tous les dons de Dieu. Or, en se fondant sur le droit seul, ils ne les conserveront pas. Et ensuite viendra le cheval pâle, et celui qui s'appelle mort, puis l'enfer. Tel est le sujet de nos entretiens, lorsque nous nous trouvons ensemble. Et cela a fortement agi sur elle.
Vous croyez vous-même à ces choses-là ?
demanda le prince en jetant un regard étrange sur son interlocuteur.
J'y crois, et je les explique. Je suis un pauvre, un mendiant, un atome dans la circulation humaine. Qui respecte les BDF? Il sert de cible à tout le monde. Chacun, pour ainsi dire, le bourre de coups de pied. Mais ici, dans cette explication, je suis l'égal d'un grand personnage. Tel est le pouvoir de l'esprit. J'ai fait trembler un haut fonctionnaire, sur son fauteuil, en le touchant par l'esprit. Il y a 2 ans, à la veille de Pâques, Sa Haute Excellence, Nil Alexievitch, dont j'étais alors le subordonné, voulut m'entendre et me fit exprès appeler dans son cabinet par Pierre Zakharitch. « Est-il vrai, me dit-il, quand nous fûmes seul à seul, que tu expliques la prophétie relative à l'Antéchrist ?»«
Oui, n'hésitai-je pas à répondre, et je me mis à commenter la vision allégorique de l'apôtre. Il commença par sourire, mais les supputations numériques et les similitudes le firent trembler. Il me pria de fermer le livre, me congédia et me porta sur le tableau des récompenses. Cela se passait au moment des fêtes de Pâques. Et 8 jours plus tard, Nil Alexievitch rendait son âme à Dieu.
« Qu'est-ce que vous dites, Lebedev ?»«
La vérité, il a fait une chute en bas de sa voiture après son dîner. Sa tempe a été donnée contre une borne, et il est mort immédiatement. C'était un homme de 73 ans, au visage assez coloré, à la chevelure blanche. Il s'inondait d'eau de senteur et souriait toujours comme un petit enfant. Pierre Zakharitch se rappela alors mon entretien avec le défunt.
« Tu l'avais prophétisé !» me dit-il.
Le prince se leva. Lebedev fut surpris, désappointé même, en voyant que son visiteur se préparait déjà à s'en aller.
« Vous êtes devenu fort indifférent, hé hé !»
osa-t-il observer avec une liberté respectueuse. « Vraiment, je ne me sens pas très bien. J'ai la tête lourde. C'est sans doute l'effet du voyage. » répondit le prince en fronçant le sourcil.
« Si vous alliez à la campagne !»
suggéra timidement Lebedev. Le prince restait pensif.
« Voyez-vous, moi-même, je vais dans 3 jours me transporter à la campagne avec tout mon monde. La santé du baby exige ce déplacement, et pendant notre absence, on fera ici, dans la maison, toutes les réparations nécessaires. Je vais aussi à Pavlovsk. »«
Vous aussi ? Vous allez à Pavlovsk ?» demanda brusquement le prince.
« Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Tout le monde ici va donc à Pavlovsk. Et vous avez aussi, là, une maison de campagne, dites-vous ?
Tout le monde ne va pas à Pavlovsk. Pour ce qui est de moi, Ivan Petrovitch Ptitsine m'a cédé une des villas qu'il a acquises à bon marché. La localité est agréable, bien habitée, on est là sur une hauteur au milieu de la verdure. La vie n'y coûte pas cher. Joignez à cela l'agrément d'entendre de la musique, et vous comprendrez pourquoi tant de gens vont à Pavlovsk. Moi, du reste, je m'installerai dans un petit pavillon. Quant à la maison proprement dite...
Vous l'avez louée ?
Non, pas tout à fait.
Louez-la-moi, proposa soudain le prince.
Évidemment, Lebedev n'avait eu en vue que de lui faire dire cette parole. Depuis 3 minutes, cette idée hantait son esprit. Pourtant, il n'était pas en peine de trouver un locataire. En ce moment déjà, sa maison de campagne était occupée par un amateur de villégiature, et celui-ci avait déclaré que peut-être il la louerait. Lebedev savait fort bien que, dans l'espèce, ce « peut-être » équivalait à un « certainement ». Mais il songea tout à coup qu'il ferait une affaire très avantageuse en louant sa villa au prince, ce à quoi l'autorisait pleinement le langage vague tenu par l'occupant actuel.
« La chose prend une tournure toute nouvelle, » pensa l'employé. La proposition du prince le transporta de joie. Et quand ce dernier lui demanda le prix, il fit un geste de la main pour écarter cette question.
Allons, comme vous voudrez, je m'informerai, vous ne perdrez rien. »
Tous deux sortaient déjà du jardin.
« Mais si vous... je pourrais, si vous le désiriez, très honoré prince, je pourrais vous communiquer, sur ce même sujet, quelque chose de fort intéressant, »
murmura Lebedev, qui, dans sa satisfaction, redoublait de cajolerie auprès du visiteur. Celui-ci s'arrêta. « Daria Alexievna possède aussi une petite villa à Pavlovsk. »
« Eh bien,
une certaine personne est liée avec elle, et paraît-il, compte lui faire souvent visite à Pavlovsk. Elle a un but. »«
Eh bien,
Aglaé Ivanovna. »«
Oh, assez, Lebedev !»
interrompit le prince avec une sensation pénible, comme si on l'avait touché à un endroit douloureux.
« Tout cela ne signifie rien. J'aimerais mieux savoir quand vous partirez. Pour moi, le plus tôt sera le mieux, car je suis descendu à l'hôtel. »
Tout en causant, ils étaient sortis du jardin. Sans rentrer dans la maison, ils traversèrent la cour et s'approchèrent de la porte.
« Eh bien, voici ce qu'il y a de mieux à faire, » répondit Lebedev. « Quittez votre hôtel. Venez dès aujourd'hui loger chez moi. Et après-demain, nous partirons tous ensemble pour Pavlovsk. »
« Je verrai, » dit le prince d'un air songeur, et il se retira. Lebedev le regarda s'éloigner, frappé de la distraction subite du visiteur, qui, en sortant, n'avait pensé ni à lui dire adieu, ni même à le saluer. Cet oubli devait d'autant plus étonner l'employé qu'il connaissait la politesse irréprochable du prince.